Radio-Vostok.ch.
Et comme je le disais, chaque premier mercredi du mois, là c'est le deuxième et on s'en fout, je reçois Alexandre, il est 17h30. Et donc on passe à l'ouest en mots, en verbes et en histoire, en littérature, écrit en majuscule sur ton papier Alexandre, c'est bien. Avec tes deux invités, Véronique Pittori et Stéphane Fretz des éditions Art et Fiction, bienvenue, merci à vous d'être là.
Bonjour Stéphane, bonjour Véronique, comment allez-vous?
Bonjour Alexandre.
Alors l'an 2000 est une année hautement symbolique pour le monde en général et les éditions Art et Fiction ne dérogent pas à la règle. Alors que toi Véronique, tu obtiens ton master en histoire de l'art et en littérature quelques mois plus tôt à l'université de Genève, Stéphane, tu ébauches de ton côté les contours d'une édition d'artiste avec deux compères. C'est notamment accompagné de Christian Pellet, avec qui tu co-diriges aujourd'hui les publications, que tu décides d'acheter un plioir à livres et une grande table d'éditeurs pour la dresser dans un atelier à Lausanne dans le but d'y installer un collectif d'artistes afin de proposer une plateforme d'expression pour plasticiens suisses et solitaires. Si cette édition a pour ambition de rassembler des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs autour de projets communs, elle a aussi l'objectif de traduire leurs pensées, parfois complexes, on y reviendra, à travers des récits et des essais. Tout d'abord adoubé par le milieu universitaire, vous peinez dans un premier temps à convaincre les libraires, car l'édition d'art paraît sous certains égards trop hermétique pour elle. Effectivement, dans les libraires, on classe les livres, puis on les défend. Malgré ce premier constat, vous n'abandonnez pas et continuez à documenter la scène culturelle romande en insistant avec une production locale « Made in Switzerland ». Bien vous en fasse, puisque vous êtes désormais représenté dans plus de 300 librairies en Suisse et à l'étranger. Une sacrée victoire. Je terminerai en rappelant que votre travail est justement récompensé en 2020, puisque vous publiez le plus beau livre du monde avec le titre « L'Almanach Écart » et gagnez des prix littéraires suisses avec les livres « Émail Diamant » de Fabienne Radi et « Inventaire des lieux » de Laurence Boissier. Après cette présentation succincte et parcellaire de vos activités, qui comprennent je crois aussi des activités de médiation, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de votre public et de ses attentes en matière de livres, Véronique?
Alors bonjour, très heureuse d'être là déjà. Alors, notre public, ben avant tout, ce sont nos membres, puisqu'on est une association avec des membres sympathisants, on va dire, et cotisants. Chaque année, il y en a qui sont là depuis 20 ans, même 22 ans maintenant, depuis le début de l'association, et qui, à travers leur cotisation annuelle, en fait, soutiennent nos activités. En contrepartie, reçoivent chaque année une sélection de nos livres.
D'accord.
Donc, ça marche comme ça. Ça, c'est comme ça que ça a débuté, éditions Art et Fiction. C'est le cœur de notre public cible, on va dire. Et ce public, en fait, ce sont pas mal des artistes, mais aussi des gens simplement qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent et à toutes les dimensions de l'art, justement, dont le livre d'artiste, qui est vraiment une production particulière, qui n'est pas de l'art visuel, qui n'est pas du texte, pas de la littérature, mais qui est une discipline intersectionnelle entre deux, en fait. Et voilà, maintenant, dans les écoles d'art, il y a de plus en plus d'ateliers d'écriture, comme ça, le public s'élargit. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, aussi, c'est de toucher des nouveaux publics, toucher des nouvelles personnes, et de rendre nos livres attractifs, en fait, pour que plus en plus de gens s'y intéressent.
Très bien. Et quels sont les enjeux auxquels vous êtes attentifs après 20 ans de publication d'artistes? Et comment se passe l'accompagnement d'un artiste, Stéphane?
Il se passe de manière assez similaire quand même depuis le début. Oui. Donc c'est toujours, bon, ça c'est, je crois que c'est le cas dans toute... entreprise, on va dire, artistique ou culturelle, c'est d'abord une rencontre, évidemment. C'est vraiment... on publie, comme tous les éditeurs, très très peu de livres qui nous seraient juste arrivés par la poste de la part d'un inconnu. Ça nous est quand même arrivé, avec le grand bonheur. Mais c'est une histoire, déjà, comme disait Véronique, notre premier cercle d'association et les bénévoles, les artistes qui se sont réunis pour créer les éditions, qui connaissent des gens, etc. Et puis parmi ces gens, ben voilà, il y a quelqu'un qui a un projet. Et donc, là, peut-être ce qui a évolué avec le temps, c'est que au début, on bricolait vraiment dans notre, comme tu rappelais, un plioir et une table qui n'était pas une table d'éditeur, qui était une table plutôt de cantine, qui est devenue une table d'éditeur parce qu'on l'a transformée en table d'éditeur et qui est notre table de réu, si tu veux. Je me suis perdu en route.
J'allais dire, dans l'accompagnement justement d'une nouvelle publication, j'imagine que c'est pas la même chose quand on a un artiste que vous connaissez, quand c'est un nouvel artiste. Comment vous parviennent les manuscrits d'ailleurs?
Alors c'est vrai que déjà le mot manuscrit, c'est plutôt effectivement des projets, puisque de temps en temps, alors on reçoit aussi des textes, on a la collection de poches dont Véronique va nous parler tout à l'heure, mm-hmm. où c'est principalement du texte, mais c'est vrai que le projet peut nous arriver vraiment aussi avec déjà un montage, texte et images, ou bien que des images, ou bien un projet aussi, un truc important aussi qui, avec lequel on a évolué, c'est toute la partie fabrication. On est par rapport à un éditeur, si tu veux, traditionnel qui reçoit les textes, ils envoient à relire, puis après à l'imprimeur. Nous, on est en contact permanent avec notre imprimeur, avec notre photographe, avec mm-hmm. les gens qui font aussi physiquement le livre, les gens qui viennent nous présenter des nouveaux papiers, on teste régulièrement. Mm-hmm. Et des fois, ça nous crée des soucis, des nouveaux papiers que les fabricants alors il n'y a plus de fabricants de papier en Suisse, hein, ça c'est une perte assez récente, 2015, dernière usine de papier en Suisse a fermé. Mais on est en contact vraiment aussi avec les gens qui sont dans la matière du bouquin, et c'est souvent aussi le cas, même si on ne publie pas que des plasticiens, à savoir des gens qui manipulent, on va dire, la matière, mais c'est quand même souvent le cas des artistes aussi, de sentir les choses aussi physiquement, une encre sur un papier qui pompe pas, qui brille, qui se plie, qui se déplie. Et ça, c'est par exemple un aspect sur lequel tout simplement on a acquis de l'expérience aussi. On avait à la fois peu de sous, peu de moyens. Et puis là, on a un peu plus de possibilités de développer des projets un peu de plus grande envergure parce que les artistes font des grands efforts de recherche de fonds aussi. Nous, on les soutient quand on peut. Et là, il y a aussi tout un développement, je dirais, au niveau presse technologique aussi du livre. Voilà. Au niveau éditorial, je dirais que c'est assez similaire. C'est quand même vraiment, comme je disais, une rencontre, un projet. Alors, on n'était que deux au début, donc c'était « Ah oui, super, on fait ce bouquin ». Maintenant, on est plus nombreux, alors c'est « Ah super, mais on va demander aux copains ce qu'ils en pensent », et puis travailler sur les feedbacks et discuter des trucs ensemble. Mais sinon, au fond, c'est la même chose.
Et aujourd'hui, du coup, tu l'as évoqué, mais vous êtes venu aussi présenter la collection Pacific Terrain, qui laisse place au récit, à l'exploration, en donnant forme à des carnets de voyage documentés. C'est très esthétique. Que pouvez-vous nous dire sur les ambitions de cette collection, Véronique, peut-être ?
Alors, cette collection, oui, on l'a créée l'année passée. Et viennent de sortir les deux premiers titres, en fait, de cette collection. D'une part, Entre deux, qui est un récit de voyage en Chine. Et puis, L'empreinte, qui est le récit de la fille d'un artiste chilien qui parle de l'exil qu'a subi sa famille, en fait. Donc, on a dû créer cette nouvelle collection, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne se retrouvait ni dans un cas où on pouvait éditer un petit livre de poche et mettre trois petites photos comme ça, en noir et blanc, au milieu, ni dans un vrai livre d'art où c'était un catalogue avec... On avait envie vraiment d'une collection où les dimensions soient vraiment très maniables, qui puissent se lire comme un essai, mais très enrichi. Voilà pourquoi on a enrichi donc d'images, puisqu'il y a des photos, des documents, mais on est vraiment plutôt dans un aspect documentaire que vraiment livre d'art. D'ailleurs, les illustrations sont en noir et blanc la plupart, et on met quand même en avant le texte avant tout, même si le travail plastique de l'artiste qui fait le livre ou dont il est question dans le livre est présent quand même au cœur du livre.
Et j'allais te demander, Stéphane, qu'est-ce qui vous distingue d'une édition d'art ? Justement, c'est ce rapport au récit.
Oui, c'est peut-être le rapport au récit. Alors, c'est vrai que nous, donc, notre sous-titre, c'est « Arrifiction, édition d'artiste ».
Voilà.
Donc, effectivement, pas « édition d'art ». Donc, il y a ce génitif qui a lieu. C'est une édition faite par les artistes. Donc, on est le comité, c'est des artistes. Et puis, effectivement, c'est pas une édition d'art au sens où on fait quelques... De temps en temps, on a fait des incursions dans la monographie d'artistes, donc une présentation d'un corpus, un travail comme ça de 10 ans de peinture, puis on les présente sur des belles pages. C'est un boulot magnifique, évidemment, que font très très bien des collègues. Nous, ça n'a pas été notre but du tout, parce que pour nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est appelé Arrifiction. C'est que pour nous, l'art n'était pas un acquis autour duquel on monte une édition, puis on fait un beau livre, et puis, parce qu'on sait ce que c'est l'art. Nous, on ne savait pas ce que c'était l'art, on n'était même pas sûr que ça existe. C'était peut-être une fiction, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se serait jamais appelé édition d'art. Pourquoi ? On a quand même osé mettre le mot art dans le nom. Je me souviens, il y a des potes à l'époque qui disaient « Mais vous êtes fous !» Fin des années 2000, on était vraiment dans les... Ouais, dans, 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 aussi dans un grand doute quand même général sur les possibilités de l'art, avec tout ce que ça pouvait impliquer, un peu de prétention de dire je suis artiste ou l'art. Donc c'était quand même un mot un peu difficile, mais on s'est dit non, on veut bien se revendiquer artiste, mais par contre on veut pas faire une espèce de grand cercueil pour l'art, aussi beau soit-il, mais vraiment que ça soit un outil de réflexion, de travail, de recherche, d'interrogation, et puis qu'on continue à s'exciter là autour, mais pas à juste faire des beaux décors.
À faire participer finalement les artistes aux discussions actuelles.
Exactement, voilà, ouais. C'est vraiment une manière. Puis là, pour ça, la collection Terrain, c'est aussi le terrain, d'où les artistes nous ramènent des expériences, mais c'est aussi participer au terrain ici, de participer à la discussion, à un terrain de discussion ici, et de réfléchir en particulier à tout ce qui nous préoccupe en ce moment, questions de décolonisation, des questions de genre, des questions de féminisme, etc. Les artistes, évidemment, participent à ce débat.
Très bien. Mais on se retrouve juste après Naem de Bon Iver, une musique spécialement choisie par l'équipe d'Arifiction pour évoquer plus précisément votre métier d'éditeur et l'engagement que représente la littérature à vos yeux. Let's rock!
I go for the kiss, I fall off a bass boat, and the concrete's very slow, and the concrete's very slow. All along the sidelines, Bingham, I'm over the dash, I'm having a bad, bad toke, but the berries still are calm. All along the Machineum, I can hear rocking you. I can hear, crying. I can hear cry. I can hear crying. All along me, I can hear you. I'd occupy that. Can't sit back on while you're forming that. On my mind, our kids got bigger. But I'm climbing down the bastion now. You take me out to pasture now. Well, I won't be angry long. Well, I can't be angry long. We burnt up in my bed, standing on a mattress top. Lord, can't we just patch this up? And I cannot seem to carry it off. All along we, I can hear you crying. All around me, I can't hear you. So what is gonna happen now? If you don't look away, what's there to pontificate on now? There's someone in my head. Tell them I'll be passing on. Tell them we're gonna pass it on. And it can't be that it's
Naïm à l'instant, chanson de Bon Iver sur Radio Vostok, choisie par nos invités, enfin du moins les invités d'Alexandre, qui continue à son intervention mensuelle pour Livre-moi et ses invités, Alexandre.
Ben voilà Stéphane, je crois qu'il y avait une raison particulière derrière le choix de cette musique, est-ce que tu veux nous en parler ?
Oui, ben, tout petit mot, c'est vrai qu'on a, il y a quelques jours, ça fait un an, première année de disparition de Laurence Boissier, qui était une autrice qu'on adorait, avec qui on a fait des magnifiques bouquins, dont tu le rappelais, un prix suisse de littérature, donc Histoire d'un soulèvement, Inventaire des lieux, Rentrée des classes, Safari. Et alors entre autres sur la vidéo, il y a aussi une espèce de le clip, je veux dire, il y a une espèce de caillou en lévitation qui me rappelait un petit peu la couverture de Histoire d'un soulèvement. Et puis oui, cette espèce de fanfare à la fois triste et joyeuse, ben, nous rappelle Laurence.
Et pour revenir sur peut-être les prochaines victoires qui attendent le monde de l'édition en 2023, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à propos de ça,
Véronique? Vas-y.
Véronique,
d'abord.
Quelles sont les prochaines victoires des éditeurs en 2023?
Ben, continuer à faire les livres tels qu'on les a fait jusqu'à présent, enfin en tout cas autant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une crise de l'énergie, une crise due aussi des prix des matières premières, en tout cas on nous l'a annoncé, on n'a encore pas forcément vu beaucoup d'effets, mais voilà, des fois on a eu des petits frissons quand même aussi à ce niveau-là, mais a priori on va pouvoir continuer à faire autant de livres que ce qu'on faisait jusqu'à présent.
Bon, un peu moins, on s'est engagé à en faire un peu moins.
Ah oui, c'est vrai. On a dit qu'on en faisait moins.
Oui, mais je crois qu'on va le tenir. Ce sera la victoire, c'est de faire un peu moins de livres. C'est vrai qu'il y a une espèce d'un peu de course en avant, je pense qu'on a, raison de freiner un peu.
D'accord. C'est un mouvement général, vous avez l'impression, dans l'édition ou...
Absolument, tout le monde, non, mais au contraire. Oui, le retour du Covid, tout le monde s'était engagé à dire non, alors on a compris, on va être... Et puis il n'y a jamais eu autant de bouquins publiés. Donc si on y arrive, ce sera une vraie victoire, hein, parce que c'est vrai qu'on est, tout nous pousse quand même encore, la décroissance c'est quand même pas vraiment pour tout de suite, et nous on va, entre autres grâce à l'œil de Véronique, on va s'y tenir, et de Marie aussi qui est à la diffusion et qui se rend bien compte que tu parlais du travail d'accompagnement, que faire un livre c'est quelque chose, mais après il faut le porter, il faut l'amener au public, et ça on peut pas le faire 60 fois par année, même si on a une super équipe qui effectivement aura encore la pêche cette année.
Et si vos publications, donc on l'aura compris, cherchent à traduire l'art, comment s'y prend-on, et est-ce que tout se passe dans les livres, ou est-ce que vous cherchez aussi à lui donner une dimension supplémentaire en organisant des événements? Comment vous organisez justement pour porter ces livres jusqu'au public?
Alors oui, Art et Fiction, c'est aussi synonyme de fêtes, d'événements et de choses très très variées, comme des présentations d'œuvres. C'est un peu prétentieux de dire des expositions, mais on fait volontiers aussi des petites présentations dans notre espace qu'on appelle le kiosque à Lausanne, à l'avenue
de
France. On en a d'ailleurs. On a un événement demain.
D'accord.
Et voilà, les gens sont bienvenus au vernissage de deux livres qu'on publie et qui se vernissent demain avec un atelier tampon d'ailleurs.
Qu'on peut déjà trouver en librairie, les livres.
Ils sont déjà en librairie, oui. Alors là aussi, ça fait partie des négociations avec les libraires d'avoir leur laissé la priorité sur la présence sur le marché, tout en aussi valorisant chez nous le travail. Parce que de nouveau, c'est vrai que le livre est à la fois cet objet qu'on trouve en librairie quand on y va, et puis on se dit tiens, un livre, super, ça va être quoi. Puis en même temps, de notre côté, c'est vraiment aussi cette association, ces gens, et donc on a aussi besoin de se retrouver, de faire la fête, et puis de fêter avec aussi les membres dont parlait Véronique, qui sont aussi importants, et avec les artistes, le livre qui sort.
Mais donc c'est aussi je complète en disant encore que ce sont des lectures qui sont organisées, parfois des lectures qui peuvent prendre des formes variées, accompagnées d'images, de sons.
Avenue France toujours, oui.
Alors ça dépend.
Ou ailleurs,
par exemple la bibliothèque d'art et d'archéologie qui a un nouvel espace au-dessus de ses locaux à Genève, nous accueille volontiers. Mais ça peut être aussi dans différentes librairies ou différentes bibliothèques. Enfin voilà, il y a plusieurs espaces avec qui on travaille et on est ouvert à toute proposition.
L'appel est lancé.
Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Et puis par exemple, pour les 20 ans d'art et fiction, donc il y a 2 ans, on a organisé un festival de 20 événements qui se sont déroulés dans différents lieux, dans différents lieux, compris différentes formes. En fait, on a donné mandat à des nouveaux artistes de piocher dans notre catalogue, en fait, et de réinterpréter ce titre à leur guise. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ça pouvait être du sonore, de l'image, du texte, une présentation originale. Par exemple, Fabienne Radic a fait une présentation du bleu à travers nos livres, avec toute une installation et une performance dans les locaux
une conférence-performance
dans les locaux du MUDAC. Voilà, j'en cite une au hasard comme Donc voilà, j'ai l'impression que comme moi, ça fait 4 ans que je travaille pour cette maison d'édition. Elle a peur de rien et qu'elle s'aventure tout le temps sur des nouveaux terrains.
Une édition multidimension. Et maintenant que les présentations avec les éditions sont faites, je vous propose de terminer notre entretien en vous invitant à nous présenter chacun votre tour un livre qui figure au panthéon de votre bibliothèque personnelle. Le premier livre sera un livre issu des éditions Art et Fiction pour les découvrir. Quant au second, il mettra à l'honneur une autre édition. Véronique, peux-tu me parler de ton livre pioché dans le catalogue de tes éditions? De quoi parle-t-il? Pourquoi a-t-il particulièrement retenu ton attention?
Alors, j'ai choisi de vous présenter le livre de Bouteina Bouslama, qui est une artiste tunisienne, dont le titre est « Livre perdu, nouvelles chaussures ». Il est sorti en 2021. C'est un livre que j'ai eu le plaisir d'accompagner vraiment dans l'édition du texte. C'était peut-être mon premier vrai accompagnement comme ça avec une artiste. Et Bouteina Bouslama raconte en fait sa vie ici dans ce livre qui est principalement du texte, hein, mais il y a quelques photos quand même qui accompagnent aussi le texte. Elle raconte sa vie, son parcours à travers la bibliothèque de ses parents qui a été perdue et qui égrène comme ça tout le livre. Il y a des photos d'ailleurs des livres quand même, certains qu'elle a retrouvés. Et puis, autre motif qui revient, c'est ses chaussures, sa collection de chaussures, parce que voilà.
C'est le livre
aussi.
Et les chaussures.
Voilà, il n'y a pas de frontières. C'est vraiment quelqu'un qui m'a épatée par son ouverture. Ben voilà, c'est, de nouveau, on est dans la transversalité des matières, du matériau, tout ce qui peut être mis dans un livre, parce que c'est ça qui est quand même incroyable avec un bouquin, c'est qu'on peut choisir plein de médiums différents, plein de manières de le dire, et tout peut être là-dedans. Donc c'est vraiment des mini-œuvres d'art, en fait, c'est nos livres pour ça.
Et il faut savoir que le format est de poche, en plus.
Oui,
très
c'est un
maniable.
Petit livre de poche.
On
voilà.
Pas
et le texte
à le voir
se lit, mais vraiment hyper facilement. Bouteina, elle a non plus pas de frontières dans ses références. Elle parle de Beyoncé comme de poète arabe, parce que son père était un grand lettré arabe et prof. Et voilà, c'est vraiment
le coup de cœur.
Cette transversalité qui m'a très bien. Vraiment beaucoup plu.
Et toi, Stéphane, est-ce que tu peux me décrire le livre que tu nous as amené aujourd'hui?
C'est comme le négatif de celui de Bouteina Bouslama, parce qu'il a une couverture. C'est aussi noir-blanc, mais avec les rapports inversés, une magnifique. Je sais pas, une vertèbre ou des ondes, enfin quelque chose comme ça qui traverse le
titre. Un joli livre de poche aussi.
C'est aussi un format de poche, par contre il est relié, on apprend dans le quatrième, non, dans l'impressum qu'il est relié en Inde, à la main.
D'accord.
On va donner le nom du relieur. Allez, Anwar P. Abdul.
Et ça se passe chez La Belle Rapace.
Et c'est donc La Belle Rapace, absolument, la maison d'édition qui est animée par Augustin Rebété. Je vais dire quelque part dans le Jura, comme un lémanique qui au-delà de Fribourg, il sait plus du tout où sont les choses, donc quelque part dans le Jura. Et alors, tout en haut de mon panthéon, ce serait difficile parce que c'est un livre que je viens de découvrir, donc c'était vraiment plutôt un coup de cœur. Récent. Déjà, alors pour la forme magnifique du bouquin, très simple. Alors, on va dire que c'est un texte poétique, la prose poétique, aussi disposée comme ça, un peu sur la page, de manière un peu, des fois, un peu visuelle, avec des blancs. Et c'est un très joli texte sur, visiblement, le narrateur est un homme jeune qui a une fille qui essaye de vivre autrement qu'en consommant de la de l'écran et de la bouffe rapide, et qui visiblement vit dans une situation plus en périphérie, et puis essaie de parler de sa vie, de comment il peut appréhender encore une possibilité de vivre intensément, par exemple. Il y a des mots comme sauvage, qui viennent, des choses comme ça, de poser quelque chose d'un peu radical et sauvage dans un monde glacé par les écrans. Et donc voilà, ça s'appelle « Mon torse ouvert ». L'auteur, c'est José Xel, chez Label Rapace.
Et ce qui marque vraiment, c'est la beauté de l'objet, je trouve.
Il y a la beauté de l'objet, mais le texte, alors c'est vrai que je suis très sensible aux beaux objets, mais voilà, si à l'intérieur, il n'y a pas un truc qui vibre, ça ne va pas non plus. Donc ouais, c'est vraiment les deux.
Ok, écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce quart d'heure qui a tourné à 20 minutes d'émission avec nous pour ce premier épisode de l'année. J'étais donc accompagné de Véronique Pittori et de Stéphane Fretz des éditions Art et Fiction, édition que je vous encourage chaudement à découvrir pour leur travail entremêlant texte et images, et pour mettre la collection Pacifique Terrain à l'honneur. Quant aux deux livres coup de cœur, vous pouvez les retrouver sur livremoi.ch. Nous, on se retrouve le 1er février prochain pour la poursuite de notre tour d'horizon littéraire suisse-roman.
Merci Alexandre, merci Véronique et merci Stéphane pour cette passion pour les livres, c'était spectaculaire.
Radio-Vostok.ch.